Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Et ben ma foi, c'est toujours un plaisir, une fois par mois, de retrouver mes compères, mes collègues, des lecteurs passionnés pour parler bande dessinée, puisque vous l'aurez deviné, ben, c'est une journée club de lecture ici à La Vie en BD. Alors, ce qui fait qu'autour de la table avec moi, eh ben, j'ai des personnes extraordinaires et Édouard Tremblay également qui est avec nous. Une petite pointe, Édouard, salutations à toi, évidemment.
Salut à tes auditeurs, mais pas à toi.
Alors, Édouard et également Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Alors, de lecteur de chez Pantoute, également libraire, si vous voulez croiser. Un ex-libraire, lecteur passionné, Jérôme Vermette, bonjour.
Salut bien.
Et je rappelle, en fait, pour ceux et celles qui nous attrapent pour la première fois cette semaine et qui découvrent le club de lecture pour la première fois, je vous rappelle le cadre qu'on s'est donné pour la saison en cours. Alors, on arrive avec une thématique, donc l'un de nous quatre propose une thématique. Et ensuite, à partir de cette thématique, chacun contribue d'un album. Et évidemment, ben, on se donne pour mission de lire les albums et d'en discuter au fil d'une heure qu'on espère la plus endiablée possible. Et ben, pour ce mois-ci, la thématique était de Jérôme. Et Jérôme, en fait, avait envie de nous amener dans quelque chose qui était peut-être un peu distinct des derniers thèmes où on parlait d'enfer, où on parlait de désinformation et le reste. Alors là, tu as décidé de nous ramener à l'intrigue peut-être, et à un type d'intrigue, à un type de récit, puisque la thématique, bon, initialement, c'était Pulp Fiction, et on l'a clarifié un peu au fil des débats, et c'est devenu Pulp Fiction et roman de gare. Alors, pourquoi cette thématique? Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Ben, en fait, là, ce qu'il faut, faut remettre en contexte, c'est quand j'ai choisi la thématique, ça fait deux ou trois mois peut-être, puis on a vu pas mal de thèmes un peu plus lourds à lire, et puis ben, on sait, j'ai tendance à être un peu affecté par ce qui se passe un peu à travers le monde ces temps-ci, hein, la guerre qui commençait en Ukraine et tout ça. Je me suis dit, c'est le temps d'y aller un peu plus léger et de parler de cet art noble qu'est le divertissement, le besoin juste de changer, de s'évader, bref. Et le pulp m'était pour moi la bonne porte de sortie.
Mais évidemment, évidemment, comme c'est le cas depuis le début de l'année, les quatre albums nous amènent dans quatre interprétations différentes.
Tu m'enlèves les mots de la bouche! Oui, parce que là, j'ai vu que tous mes collègues ont très bien... ont très bien ciblé, qu'on soit dans le roman policier ou même le roman d'aventure qui fleure bon, le Henry Rider Haggard, mais moi, je suis...
Ben, avant que tu nous dises l'album, en fait, je réalise que je n'ai pas mentionné justement les quatre albums qui sont en sélection, et tu attraperas ensuite, Jérôme, avec ta sélection dans ces quatre, puisque de toute façon, je ne me rappelle plus qui a choisi quoi pour être parfaitement transparent avec les auditeurs auditrices. Alors, Dominios et Sanparo. Donc, Alex Sinner, L'âge de l'innocence, et on me dit que c'est le choix de Marco. Ensuite, il y a Stéphane Desberg et Hugues Labiano avec Le Lion de Judas, livre 1. C'est chez Dargo, c'est la sélection d'Edouard, me surtons à l'oreille. Il y a La dernière rose de l'été de Luca Harari chez Sarbacane, et on m'indique que c'est moi qui ai choisi ce titre. Et parallèlement, il y a Rat God de Richard Corben. Et ben, Jérôme, de toute évidence, c'est ce sur quoi tu allais nous inviter il y a quelques secondes avant que je t'interrompe violemment.
Violemment, un coup dans l'œil et tout. Ben oui, en fait, c'est la première bande dessinée avec laquelle j'ai découvert Richard Corben, qui est un auteur de BD américaine que j'aime beaucoup, qui va... Puis pour moi, il fitait tellement bien dans la thématique de pulp, parce qu'il est aussi bon, selon moi, dans les histoires courtes. Il a travaillé chez Eerie, Creepy, etc. Que dans les histoires longues, Right God, c'est un... On va prendre le terme un peu mal aimé de roman graphique, puisque c'est plusieurs fascicules qui ont été mis en une seule BD. Et la raison pour laquelle je l'ai proposé, c'est que là-dedans, je trouve que Richard Corben rend hommage à un auteur de pulp probablement le plus connu encore de nos jours, 100 ans plus tard, c'est-à-dire H.P. Lovecraft. Donc, il met en scène un personnage au début du 20e siècle qui ressemble d'ailleurs visuellement à H.P. Lovecraft et qui semble avoir les mêmes valeurs un peu WASP, le White Anglo-Saxon Protestant. Il travaille à l'Université d'Arkham et tout ça. Il tombe amoureux d'une jeune femme qui, elle, est plus métisse. Et bon, mais ça déchire, lui, intérieurement, ses valeurs personnelles. Et puis, il décide de la suivre et d'aller la retrouver dans son village natal, qui est un village perdu. Et là, bon, commence un peu son voyage initiatique. On n'est pas trop sûr si c'est un cauchemar ou la réalité en tant que telle. Bref, on embarque un peu sur le territoire lovecraftien. Et ce que je trouvais intéressant, en dehors de la partie horreur à la Lovecraft, justement, qui mélange autant l'hommage à les rats dans les murs, le cauchemar de Dimanche, etc., c'était le fait que Corben semblait interroger également le fait qu'on aime Lovecraft malgré certaines valeurs que ses écrits transmettent. Et donc, en les interrogeant, il ne veut pas dire qu'on devrait arrêter de le lire, mais plutôt en prendre conscience malgré tout. Bref, je trouvais que c'était un album qu'on pouvait discuter là, de manière non seulement du point de vue évasion, mais aussi thématique.
Alors ça, c'est pour Rat God de Richard Corben. Et je vais mentionner le titre que j'ai pris avant qu'on passe au suivant, La dernière rose de l'été de Luca Harari. Alors, une BD, en fait, sincèrement, c'est le genre d'objet, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de le croiser en librairie du côté des auditeurs, parce qu'évidemment, nous ici, on l'a lu. Mais dans le fond, c'est déjà un objet que je trouve absolument magnifique. Et pour moi, quand tu me parles de fiction pulpeuse, quand tu me parles de roman de guerre, ça me ramène un peu à une esthétique années 60-70. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très daté en termes d'époque. Ça existe, je sais que ça existe encore, le roman de guerre, ce type de récit-là. Mais pour moi, je veux dire, mon imaginaire me ramène un peu à cette esthétique-là. Et je trouve qu'Harari, dans son approche visuelle, dans les tonalités, dans les choix de couleurs qu'il fait, il nous ramène vraiment à plein dans cette ambiance-là. Et pour moi, c'est ce qui fait d'entrée de jeu le grand intérêt de La dernière rose de l'été. Donc, les choix graphiques, les choix visuels, les choix de couleurs. Et ensuite, derrière ça, il y a un récit qui est quand même intéressant. Sincèrement, d'entrée de jeu, j'imagine qu'on en reparlera en cours de route, mais pour moi, la couleur, l'esthétisme, c'est vraiment l'élément qui ressort. Derrière, en termes de récit, on parle d'un auteur qui se retrouve à surveiller une maison d'été dans un village sur le bord d'une plage. Donc, on est dans le roman de guerre aussi, dans le récit à fond là-dedans. Évidemment, il va voir quelques crimes, et il va avoir envie d'en savoir un peu plus et tranquillement, il va se retrouver au cœur d'une histoire à laquelle il était parfaitement étranger, mais de laquelle il va devenir, dans le fond, un acteur un peu incontournable, simplement en s'y étant imposé au bout du compte. Et là, tranquillement, toujours avec cette ambiance de la côte, avec cette ambiance de couleur un peu rétro, on va suivre un peu le développement de cette intrigue. Alors, j'en dis pas plus, mais sincèrement, je réitère, il est absolument magnifique d'un point de vue visuel et vous n'aurez pas le droit de dire le contraire. Alors, je blague, évidemment, puisque toutes opinions sont bienvenues. Et on passe au prochain titre. Du côté d'Edouard, dans le fond, tu nous as amené vers le lion de Judas.
Ben oui, j'avoue que le pulp, ça n'a pas été un choix facile, pas parce que justement il n'y en avait pas, parce que justement il y en avait beaucoup trop. Du reste, moi, c'est, je vous avoue, une époque, un genre, les auteurs des années 30, des années 40, c'est une de mes époques de prédilection que j'ai toujours adoré, dans laquelle j'ai toujours baigné depuis que je suis tout petit.
Et là, parenthèse, en fait, il y a plein de gens qui se font autour de la table des signes du cœur, comme quoi, visiblement, ce type de récit en intéresse plusieurs à la table.
Oui, encore une fois, sans grande surprise, vous avez compris qu'on a beaucoup de points communs dans nos intérêts, disons, Jérôme et moi. Mais j'ai décidé finalement d'y aller avec le lion de Judas parce que d'emblée, c'est une BD que je trouve qui est passée un peu sous le radar, à ma grande tristesse, parce que j'ai vraiment eu un plaisir de fou avec ce truc-là. Parce que je pense qu'elle l'a vraiment saisi. Ce qui est l'essence d'une aventure pulp dans la nature du héros, dans la nature justement de la quête, de tout ce qu'elle incarne. Je trouve que c'est une BD qui suinte le pulp, même si elle a été produite l'an passé. Ça me fait l'effet quelque chose qui aurait pu sortir justement dans les années 30, dans les années 40, puis en radio-roman ou peu importe. Puis il me semble qu'on aurait suivi le lion de Judas, puis on aurait eu du fun avec ça.
Et l'accent anglais était important dans ton descriptif, parce que si on dit on suinte la pulp, ça nous aurait plus ramené au commerce du bois et le reste.
Oui, au jus d'orange.
Aussi. Mais veux-tu nous parler un peu de l'histoire avant de passer à Marco?
Grosso modo, oui, je ne veux pas trop m'étendre, parce qu'évidemment, on va en reparler, enfin, mais on suit un bagnard un bagnard en Afrique, en fait, qui va être sorti de son état de prisonnier pour se lancer, sans grande surprise, sur les traces d'un espèce de trésor perdu, enfin, la fameuse 13e tribu de Judas, de Salomon, une grosse symbolique derrière tout ça. Et donc, comme je disais, ça va être vraiment une chasse au trésor, essentiellement, que ce type-là va amorcer. dans le tournoi.
Et évidemment, pour compléter, dans le fond, on va aller vers la sélection de Marco. Il faut dire, en fait, à chaque fois qu'on fait un club de lecture sur une thématique légère, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une BD de 400 pages. Ce mois-ci, c'était Marco avec, donc, Alec Sinner et l'âge de l'innocence.
Oui, alors, pour moi, en fait, je vais sortir du placard. À mon arrivée, il y a 30 ans ici, j'étais un lecteur de romans policiers. Mais pas de romans policiers, de romans noirs. Donc, pour moi... la série noire était une façon de vivre. J'étais un fan fini de Raymond Chandler avec son Philip Marlowe. J'étais un fan fini de Dashiell Hammett avec son... je me rappelle plus son détective. En tout cas, dans ces années-là, je lisais beaucoup, beaucoup de romans noirs. Pas de romans policiers, parce qu'actuellement, les romans policiers ressemblent plus à des westerns que des romans policiers. Donc, j'étais déjà un fan fini de romans noirs. Puis avec le pulp, ça a été mon contact a été avec le Shadow. Des bandes dessinées de Shadow, mais aussi les lectures des romans radiophoniques faites par Orson Welles. J'ai réussi à trouver une adresse d'archives, je pense qu'à New York, un truc comme ça, à la bibliothèque de New York, où on a les romans radiophoniques du Shadow par Orson Welles. Donc là, on est dedans et tout. Alors, quand est arrivé les années, quand je suis arrivé en librairie et que les BD à suivre, le magazine à suivre était bien populaire, ils ont commencé à nous présenter des albums en noir et blanc d'Hugo Pratt et tout. Et dans ce courant de BD noir et blanc et dans ce courant des Argentins est arrivé Mino Sempayos, deux auteurs argentins qui nous ont donné d'abord les histoires du bar à Joe, des petites histoires qui se passaient, que les gens se racontaient au bar de Joe. Et est arrivé un personnage qui s'appelle Alex Signer, qui est un détective privé. Voyant que ceci étant bon, ils ont décidé d'en faire une série. Alors est né Alex Signer, est né une série de romans, de nouvelles policières, parce que, bon, là, c'est vrai que ça a 400 pages, mais c'est des nouvelles. C'est de petites nouvelles qui se lisent séparément. Et avec tout ce que ça implique de roman noir, avec les codes du roman noir, avec ce noir et blanc inspiré de Alberto Breccia, inspiré de Gomez avec son silence. Et en même temps, la petite touche argentine de on frise peut-être le fantastique, mais pas l'imaginaire et tout. Alors, tout ça là-dedans. Alors, pour ce qui est de l'histoire, Alex Sinner a été policier. Mais la police et les lois ont été une entrave pour lui. Alors, au moment où sa sœur se fait agresser, il ne trouve pas de façon de rendre la justice avec la police. Donc, il quitte la police et s'ouvre un bureau. Et là, il continue. En fait, il passe plus de temps au bar à Joe. Mais c'est là qu'il va prendre ses enquêtes et ses affaires.
Alors, quatre albums, et je réitère, quatre interprétations différentes du thème et du style, comme c'est notre habitude désormais depuis l'automne dernier. Alors, Édouard Tremblay, je pense que c'est vers toi que tous les yeux attentifs et admiratifs se retournent. Par où va-t-on commencer et pourquoi?
Ben, allons-y. Hein. D'ailleurs, trois bonnes BD plus celle de Raymond, donc un gros programme encore aujourd'hui.
Tu l'as cherché un peu.
Je l'ai cherché, effectivement.
Et, ben en fait, et Raymond l'a déjà évoqué, donc, avec une grande variété, mais c'est ça aussi, le pulp, c'est un mouvement, hein, donc c'est pas seulement un type d'histoire, c'est tout un mouvement, c'est tout un ensemble qui englobe, hein, justement, le noir, le suspense, l'aventure, qui peut nous amener dans des histoires d'amour, aussi bien que dans des histoires extrêmement horrifiques. Qui est, à mon avis, l'essence du pulp. Et pourquoi le pulp est aussi important, je pense, de nos jours, c'est que pour moi, c'est le dernier rempart contre l'abus de sérieux, contre l'abus d'analyse. Moi-même, je suis un type qui est hyper analytique. Puis, dans le pulp, le fait est qu'un moment donné, pour l'apprécier, je pense qu'il faut se laisser porter par l'histoire. Il faut essayer d'arrêter d'être hyper analytique, de hyper décortiqué, de dire « Ah oui, mais c'est vrai que là, le héros, peut-être que considérant la conjoncture et la température dehors, peut-être que là, il devrait pas avoir les yeux. » Non, un moment donné, là, je veux dire, ça en devient insupportable. Puis, comme je vous dis, moi-même, je suis un hyper analytique. Moi-même, je m'insupporte des moments par moment comme ça. Et le pulp, pour moi, ben, c'est comme un peu retourner à la maison. C'est un peu comme dire, non, là, on arrête de couper le cheveu en quatre. On arrête d'essayer de trouver la quadrature du cercle. On s'installe, on a du plaisir. On revient à ce qui est l'essence d'une bande dessinée, à ce qui est l'essence du pulp, le fun. Parce que bon, ça peut être aussi élaboré, hein, aussi génial, aussi intriguant et complexe qu'on veut. Si à l'autre bout, on n'a pas de plaisir, qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça, le Paul, pour moi, c'est du plaisir en bloc. C'est un moyen de s'évader, c'est un moyen de se plonger dans d'autres univers où on peut se prendre pour un héros. Parce que nos héros, et c'est le cas dans les quatre, hein, c'est pas des gens parfaits. Et ça aussi, je pense que c'est un élément, en fait, qui lie tout ça dans le pulp. Notre histoire est simple, mais notre héros est faillible. Notre héros a un passé. Notre héros va se retrouver, en fait, confronté à lui-même. C'est le cas dans les quatre, mais je pense que c'est difficilement plus... Ça peut plus l'être que dans Rat God de Richard Corben, où là, on a vraiment un héros, justement... On ne peut plus imbu de lui-même, de ses valeurs, de ses traditions, comme on retrouve justement, comme Jérôme le soulignait, comme on retrouvait entre autres chez Lovecraft, qui était lui-même imbu de valeurs assez conservatrices, assez... Mais donc là, justement, notre héros faillible qui va voir en fait toutes ses croyances, tous ses préconçus complètement revirés de bord, complètement retournés. En même temps, je trouvais l'aspect intéressant aussi parce que justement, c'est un peu le comme tu disais, le pied de nez à Lovecraft, dont notre personnage ne jure que par Cthulhu et par Yog-Sothoth. Mais là, tout d'un coup, c'est comme une autre entité parallèle à ça qui vient le prendre de court. Et, bien sûr, Richard Corben. J'étudie Richard Corben. ce gars-là transpire le pulp. Hein. Il l'a dans son essence. Je veux dire, c'est un gars dans les traits des personnages, dans les histoires, justement, qu'il va nous raconter, qu'elles soient plus courtes, qu'elles soient plus longues. Corben, c'est le pulp dans son essence, là, mais dans tout ce qu'il y a d'extraordinairement beau, prenant et terrifiant également là, dans le mouvement.
Oui, en fait, une BD vraiment fascinante. Et où tu parles de ce personnage-là qui est quand même ancré justement dans ses préjudices, dans le fond, dans ses présomptions, dans ses... dans ses prêts autre chose, mais qui est quand même ouvert à évoluer, ce qui est quand même important de signaler. Dans le fond, il n'est pas complètement encarcané, et je l'ai trouvé quand même surprenamment réceptif à toute l'improbabilité qui se passe autour de lui, et ce qui nous amène peut-être justement à accepter rapidement ce qui se passe autour, parce que lui, il y a des entités, il se fait prendre d'assaut, il reste, mais il reste toujours un peu stoïque par rapport à tout ça, il accepte rapidement ce qui se passe, et ils se permettent d'évoluer, de progresser. Donc, ce qui fait qu'on a quand même aussi un récit à plusieurs dimensions. Donc, le mystère de l'action qui se passe, mais l'évolution de ce personnage-là qui est profondément imbuvable au début et qui, à la fin, demeure relativement imbuvable, mais a évolué.
Oui, en fait, son entrée de jeu, dès sa manière où il parle avec son...
C'est terrible.
Le mec qui fait du pouce, puis que, dès qu'il s'aperçoit que c'est un autochtone, là, il commence à jouer la carte du Wasp. Là. C'est pour ça que... Mais en même temps, il y a dans Rat God, puis c'est là que je pense qu'il se rattache à la culture du pop. Il y a du pop, excusez. Le personnage fait un peu le voyage du héros de Joseph Campbell. Il part d'une situation initiale, il va être mis il va être confronté intérieurement, puis lui, au lieu de se civiliser, par contre, il va peut-être il va accepter un peu à l'instar du narrateur du cauchemar d'Innsmouth, qu'il fait partie finalement d'une autre culture, qui cette fois-là, au lieu de venir de la mer, semble être attaché à des rats en tant que tel. Et il y a tout là-dedans, on dirait, d'une certaine manière, sans que ce soit lourd, un peu un compendium de ce qu'on va trouver dans Lovecraft. le culte, la créature qui vient d'une autre époque. Le début, moi, m'évoquait un peu les nouvelles poétiques de hyperboréennes de Clark Ashton Smith, là, avec son univers un peu préhistorique et tout ça, mais c'est jamais lourd dans Corben. Tout fil est mené par son dessin à la fois beau à cause de ses couleurs vives, mais aussi grotesque. Je trouve que les dessins de Corben ont toujours ça, de grotesque, avec ses gros plans qui nous montrent les défauts des personnages.
Tout à fait, parce que en fait, je réalise que Corben, ses dessins léchés frise la caricature, comme le pulp frise la caricature des personnages et des histoires. Parce que, somme toute, tous ces personnages-là qui sont tirés du pulp ont toutes une définition exagérée de certains traits de caractère qu'on retrouve chez leurs semblables. Les détectives privés sont tous pareils. Quand ils parlent en voix off, ils parlent de la même façon. La même chose pour l'horreur, le fantastique, ou même dans celui que tu as choisi, Raymond. Qui fait un peu appel à... Moi, ça me faisait beaucoup penser au film de Godard.
Ouais.
Tu sais, avec Belmondo, je me rappelle plus du film, qui est une fuite, là, une espèce de road movie. Ah, à bout de souffle. Voilà. Alors, le pulp, et Richard Corben vient appuyer avec son dessin. C'est très beau, c'est très léché, mais c'est très caricaturé. Et là-dedans, effectivement, là, la caricature va jusqu'au personnage dans leur... dans leur caractère et leur façon de voir et tout.
Oui, effectivement, c'est pas juste une caricature graphique, si on peut dire. On va un peu plus loin, mais comme tout le monde est un peu sur ce niveau-là, ça reste cohérent. Mm-hmm. Il y a un esprit d'ensemble qui est très fort dans l'univers qui est proposé. Puis on dirait que cette approche-là, visuelle-là, nous prépare aussi beaucoup pour le Rat God, à proprement parler, pour les créatures, pour la dimension un peu surnaturelle. Et autant qu'en termes de rythme aussi, tu sais, je veux dire, il y a quand même plusieurs épisodes dans le récit, ça va quand même assez rapidement, assez rondement, c'est très, très rythmé, très bien structuré. Je veux dire, je me verrais, faudrait que je gratte et que j'invente pour trouver des défauts concrets à cet album-là. Je veux dire, j'ai vraiment une expérience de lecture assez stimulante autour de ta proposition, Jérôme, là-dessus. Et parce que, justement, le visuel servait aussi cette ambiance-là, je pense, nous amenait, nous désarçonnait, nous préparait aux différents lieux qu'on va proposer au malaise peut-être qu'on devrait ressentir aussi par rapport à certaines localités, localisation de village, etc., entre autres, ou la fête à la fin.
Ben, en fait, puis comme je disais aussi, pourquoi ce grotesque-là devient central? Eh bien, parce que là aussi, on n'oublie pas le personnage qu'on met justement en scène, qui est bon, inspiré de Lovecraft, qui n'est pas tout à fait Lovecraft, mais donc justement, quand il jure, quand il évoque ses dieux, il évoque les dieux de Lovecraft. Donc, on prend déjà à partie que c'est quelqu'un, justement, il disait, justement, Raymond, tu soulignais comment il acceptait, somme toute, assez bien le côté surnaturel de la chose. Ben, évidemment, bon, pour ceux qui connaissent Lovecraft et bon, sa mythologie, il y a quelqu'un qui, donc, serait un fidèle des grands anciens. Disons que ça en prendrait beaucoup pour le déstabiliser et tout. Mais c'est là où est le génie de Corben. Parce que oui, dans Rat God, dans le fond, il est confronté à des choses que, dans ses croyances, auxquelles il pourrait être confronté. Parce qu'il, bon, il croit dans des entités qui sont à peu près l'équivalent du Rat God, mais là où on va chercher sa faillibilité, et je veux pas trop en dire, évidemment, mais c'est dans justement ce racisme-là, dans cette espèce d'intolérance qu'il a, alors que pour lui, bon, on donne presque l'idée que justement le culte de Cthulhu, le culte de Yog-Sothoth, c'est un certain lustre maintenant, c'est une certaine intellectualité, un certain intellectualisme, alors que là, c'est purement un culte sauvage et barbare de gens peu civilisés. Alors que bon, hein, on s'entend que le point entre un et l'autre est assez mince. Et c'est, je pense, aussi la leçon que Corben va passer à son héros progressivement au fil du récit. Là.
D'ailleurs, une suite à ce que tu disais au début, ton introduction de ce qu'est le pop, je m'aperçois. C'est plus fort que moi quand je lis Rat God. C'est le deuxième Corben que je propose dans le club de lecture. La première fois qu'on avait fait le club de lecture, j'avais proposé Ragemore. Puis je trouve encore qu'au niveau de son graphisme, ça sert toujours le récit, encore une fois. Là, puis c'était deux bons exemples. Mais là où je voulais en venir, c'est toi, tu disais que le pulp, on se laisse aller, il ne faut pas chercher d'intellectualité. Puis je trouve qu'avec Rat God, il se lit de deux façons. Tu te laisses porter par l'histoire, that's it, t'as une histoire d'horreur qui est, comme le disait Raymond, bien rythmée, visuellement stimulante, qui est patiente à lire, mais il y a plein d'intertextualités avec d'autres œuvres, peu qu'on ait la connaissance, par exemple, des voyages oniriques, dès que tu traverses un pont ou un banc de brume, tu rentres peut-être dans un domaine autre que le domaine de la réalité. Ben, Corbin joue beaucoup avec ça dans Red God. Si tu connais ton Lovecraft, tu vas trouver des intertextualités qui vont être passionnantes à trouver en tant que telles, mais le récit se laisse lire d'emblée sans que le lecteur ait toutes ces connaissances-là en lui, puis c'est correct comme ça d'ailleurs.
Oui, mais ça fait une valeur ajoutée dans le fond pour la personne qui veut le lire dans la dimension simplement du divertissement, du pur plaisir. Bien, le plaisir, il est là, et je pense que c'est important de se rappeler qu'au bout du compte, c'est pour ça qu'on lit aussi au départ. Voilà. Mais après ça, si on a envie de creuser un peu plus, bien, il y a quand même un peu plus, il y a un travail, une réflexion. Il y a une proposition qui est développée, qui est riche, qui est enrichie. Un peu à l'image d'autres titres, d'ailleurs, dont on va discuter aujourd'hui, parce que je pense que c'est pas parce que, justement, c'est un genre qu'on pense et qu'on présente aujourd'hui purement sous l'angle du plaisir qu'il n'y a pas d'analyse à faire. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est le fun aussi, justement, de pouvoir juste s'installer dans un truc puis de faire les montagnes russes. Puis là-dedans, bien, les montagnes russes sont, comme on le disait tantôt, sont faites, sont bien maîtrisées, sont bien développées, sont bien amenées dans le contexte d'un type de récit qui rend hommage sans rendre hommage, qui n'est pas vraiment un pastiche non plus, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser cette impression-là. On n'est pas dans un pastiche de Lovecraft, on n'est pas dans un hommage à Lovecraft. C'est juste qu'on fait une référence ou un clin d'œil parce qu'on va s'inspirer de cette mythologie-là, de cette structure-là.
On s'inscrit dans cette
tradition-là, exact.
Essentiellement. Là. Puis c'est pour ça aussi que justement, il n'y a pas deux pulps, il n'y a pas le pulp de l'époque puis le pulp aujourd'hui. On disait qu'il s'en fait encore. Bien, il s'en fait encore. Et justement, ça répond à ces éléments-là. Et quand on parle justement, oui, qu'on parle de divertissement, on se dit « Ah oh non, mais oui, on pourrait bien sûr qu'on pourrait l'analyser, qu'on pourrait aller chercher ces éléments caractéristiques qui font justement un bon récit pulp d'horreur. » Et Dieu sait que Lovecraft avait mis justement lui-même, établi certains critères assez clairs pour faire une bonne histoire d'horreur comme ça. Et si on prend, tu sais, Alex Sener de Munoz et Sampaio, eh ben c'est la même chose. Hein. Marco l'a bien évoqué. Je veux dire, on est dans l'essence de tout ce qui a pu se prendre, tu sais, d'histoires de détectives, de films, de tout. On prend ça, là, vous mettez ça dans une grosse presse pour sortir tout le jus, là, puis ce qui sort, c'est la pulpe. Hein, voilà, grosso modo, dans le thème. Vous sortez toute la pulpe et ça vous donne Alex Sener, essentiellement.
Pour ce qui est de tout à l'heure, on parlait de parodie. Quelqu'un a mentionné que c'était une parodie ou un truc comme ça. Je pense pas que le pulpe soit une parodie de... En soi, le pulp est vraiment le roman de gare où je pense que ça a une structure bien à elle, qui respecte ses codes à elle. Vous l'avez démontré d'ailleurs avec Ragod, puis Alaxinus, c'est la même chose. Bon, là, c'est plusieurs petites histoires, plusieurs enquêtes d'Alaxinus. Il suffit juste de voir la première qui illustre magnifiquement l'esprit d'Alaxinus, mais aussi comment se déroule la chose et comment on applique ces codes du roman noir. Alex Sener est un détective privé et dans l'affaire Webster, la première histoire, on vient de l'engager pour un riche homme d'affaires et menacé et harcelé. Il veut savoir c'est qui. Et là, Alex Sener va se promener de membre de la famille, à chauffeur de la famille, il ne fait que ça. Alors, le détective privé, ce n'est pas Sherlock Holmes qui va déduire qui est le coupable et tout, et le policier qui court après le méchant. Non, le détective, dans le roman noir, il erre, il fait le lien. Et le coupable va se trouver tout seul. Et c'est ce qui arrive avec l'affaire Webster. Finalement, Alex Sener est un train en retard. À chaque fois qu'il va voir quelqu'un, il a raté le coupable. Et c'est ça. Et tout ça nous est raconté en voix off parce que c'est raconté. Hein. Et là, c'est ce qui fait la beauté de la chose dans le roman noir. C'est raconté. C'est-à-dire qu'on a une seule vision, celle du détective privé. En tout cas, dans ce cas-ci, Alex Sener. Alors, je ne pense pas que le pulp soit une parodie de quelque chose de genre, du fantastique, du roman policier. Je ne pense pas. J'ai toujours était sincèrement convaincu que le pulp a ses propres codes, a ses propres définitions, puis ses propres caractéristiques. pour être un genre à lui.
Mais c'est ça, c'est pas tant qu'on parlait de parodie à proprement parler et même de pastiche, non? Au contraire, c'est justement comme je disais, c'est le pulp se faisait à l'époque, il se fait encore aujourd'hui, et je pense que là-dedans, on s'attend, comme amateur du genre aussi, à retrouver justement ces lieux communs-là. Je veux dire, si je lis Red God, tu me dis, je t'amène dans une histoire d'horreur pulp. C'est sûr que dans ma tête, la première lumière qui s'allume, c'est Lovecraft. C'est-à-dire, quels éléments Lovecraft? Tu sais, moi, tu dis, on s'amène dans une bonne histoire de détective pulp. Ben là, c'est sûr que moi, je veux qu'il fume. Je veux qu'il y ait un imperméable. Il faut qu'il mouille. Il faut qu'il y ait une vamp assise sur le comptoir. Il y a des éléments comme ça. Et même Alex Sennor, je fais juste un petit clin d'œil. Je pense que c'est la page 106. Vous irez voir. J'y tiens parce que j'ai trouvé ça. Il est tellement fumeur, il fume en dessous de la douche.
Mais je voulais renchérir sur ce que tu disais. Ce qui est important, dans le fond, je pense, le côté un peu des codes qui sont présents dans les genres, dans les types d'histoires. Et on en parlait il y a deux semaines avec Joan Diaz-Canales, entre autres. C'est un peu dans l'idée que, dans le fond, ces codes-là, le lecteur les connaît aussi. Et donc, le lecteur, d'entrée de jeu, dans un récit, va se retrouver dans un contexte, dans un cadre qui maîtrise, qui connaît, qui comprend. Et une fois qu'on part avec ces éléments-là, mais là, c'est à l'auteur et au génie des auteurs de nous amener à quelque part, de surprendre, de jouer avec ces codes-là, de nous étonner ou de les endosser à fond et d'aller jusqu'au bout à partir de cet univers-là. Mais on part dans un cadre archi-connu. C'est-à-dire, ces éléments-là, on a ces attentes-là en amorçant la lecture. Et après ça, ben, c'est un peu le génie de l'auteur aussi de nous amener, de se les approprier. Et soit nous amener ailleurs, ou soit, je le redis, d'aller jusqu'au bout.
Voir d'ailleurs, dans le cas d'Alex Sennor, avant même d'avoir commencé la lecture, tu l'as feuilleté. Tu vois tout de suite que tu vas être dans le roman noir en tant que tel, juste par les... premièrement, là, les quatre albums qu'on a lus aujourd'hui, je trouve qu'ils ont tous quelque chose de particulier au niveau graphique.
Même et...
D'où mon terme de particulier, mais particulier dans le bon sens du terme, parce qu'ils ont tous leur aspect fascinant au niveau graphique. Et dans le cas d'Alex Sennor, l'imagerie en noir et blanc mettrait ça en couleur, puis ça serait carrément une autre ambiance. Il ne faut pas que ce soit en couleur, que ce soit en noir et blanc.
On parle d'un héritage, surtout de la BD argentine. Oui, on parle d'un héritage.
C'est pas la première fois qu'on en lit, là, d'ailleurs, de cette. C'est pas le dernier club ou l'avant-dernier club.
Alberto Breccia, qui lui. Voilà. Avait travaillé beaucoup avec le noir et blanc et tout, alors c'est l'héritage, c'est directement lui. Mais ici, effectivement, ce que Raymond disait, les codes et particuliers, et c'est vrai que c'est rassurant pour le lecteur de dire « Ah, OK, c'est une histoire de détective, et comme tu le mentionnais, Édouard, il fume, il boit, il est plus souvent à son bureau, il est plus souvent au bar à Joe que à son bureau, et on se demande même que quand il rentre un client, il est chanceux de pogner Alex Sennor à son bureau. » et ça, mais dans l'histoire, c'est ça, en fait, sans trop révéler le punch, mais Alex Sennor, qui, dans l'affaire Webster, entre autres, qui est un bel exemple, et la petite touche argentine, c'est qu'à un moment donné, le coupable était sous nos yeux et c'est la folie qui en était la cause. Et à la fin, il y a comme un retournement de « Ah, OK, c'était ça ». Tu sais, un peu à la sud-américaine, là, à Cortázar ou à Borges. Là, et tout du long, ça va être traité comme ça. Mais au niveau graphique, évidemment que ça vient appuyer, surtout dans le cas du roman noir, ça vient appuyer. Je pense. Mais en couleur, c'est possible aussi. Un des plus beaux exemples, c'est Bruno Inuri qui nous ont donné Tyler Cross. C'est de la couleur, mais la narration de ça est du roman noir, c'est du pulp. Les trois histoires le sont d'ailleurs. La façon dont, le premier, le type débarque dans sa bourgade, puis dans une petite bourgade, puis il se fait pogner par la maîtresse du shérif et tout. Il se fait embarquer dans une histoire de fausse livraison et tout. Là, je veux dire, encore aujourd'hui, ça continue d'exister, mais en couleur, ça serait possible aussi. Mais dans le cas de ça ici, ça a été fait pour ça. Et le trait et tu sais le brouillon de Munoz, ça a toujours été un peu ça. Ça a toujours servi ce genre d'histoire-là. Quand ils ont fait la biographie de Billie Holiday, ça rendait l'aspect du jazz des années 40 et tout. Alors,
Voilà. Ben oui, peut-être encore plus que Barney et Nanotte Bleue, c'est le cas de le dire. On peut pas lire Alex Sennert puis pas se mettre un petit fond de jazz en arrière. On a l'impression de l'entendre pratiquement. Je veux dire, dans, quand il marche, quand il parle, ben ça, j'entends le jazz derrière. Et c'est bien la preuve que justement, tu sais, Munoz et Sampaio ont saisi l'essence de quelque chose. Et c'est ça qu'ils ont rendu. Et c'est ça le pulp, dans le fond, peut-être, justement, bon, on parlait de dire, oh, postiche, paradis. Non, c'est peut-être plus l'essence. Ouais. L'essence pure, sans tout son flafla, sans tous ses faux semblants, sans toutes ses grandes analyses, juste l'histoire à proprement parler, juste le souffle de ce qui nous pousse. C'est le cas dans La Dernière Rose, hein, de l'été. Où même notre héros, en fait, lui-même, est absorbé un peu contre son gré, un peu comme nous, on va être amené comme ça à notre corps défendant dans ce magnifique bord de mer avec cette, et avec, bien sûr, cette vente mystérieuse. Quel autre archétype extraordinaire du pulp, en fait. Mais donc, bien sûr, cette femme aussi dangereuse qu'intrigante, aussi belle que pleine d'incertitudes.
Autrement dit, c'est une littérature de macho quand même.
C'est sa origine dans les années 30. Et il faut bien reconnaître que certains de ces auteurs-là, hein, Howard, Lovecraft et tout, disons que la position de la femme n'était pas aussi égalitaire et avancée qu'elle l'était. Mais bon, là-dedans, reste que là, je parle d'un archétype, mais reste qu'on n'est pas en train de nous présenter une nuche ou une ahurie qui... non, au contraire, on a une femme qui est complexe, qui est mystérieuse, et notre héros qui se retrouve sur la pente fatale.
L'entrée, dans le fond, c'est qu'un archétype peut évoluer tout en gardant les racines de l'archétype.
Tout à fait, tout à fait.
Les capacités qu'elle a, la nature de son personnage, il y a des assises qu'on retrouve dans les origines de l'archétype, autant que cette femme-là, si elle avait été écrite dans les années 30, elle n'aurait pas été écrite comme Harari nous l'écrit non plus dans La Dernière Rose de l'été comme telle. Donc, un archétype peut et doit évoluer au bout du compte.
Oui, absolument. Puis, on me prend de court. Soit La Dernière Rose de l'été, c'est la deuxième fois que je le lis, puis je me rends compte que je cherche encore les circonvolutions de cette série-là, de ce récit-là, excusez-moi, qui est très prenant. D'une certaine manière. Puis, quand l'album est fini, j'ai pas encore tout à fait tout compris. Et pour moi, La Dernière Rose de l'été va m'évoquer plus, et là, je suis désolé de revenir encore avec ça, plus, non pas le pulp, mais le giallo. Parce que, à cause du décor, qui fait un peu été diabolique, d'ailleurs, ouais. Sur le bord de la mer, on a l'impression d'être dans le midi de la France, dans les années 60, un peu. Là. Et encore là, Lucas Harari, j'avais lu également, c'est L'Aimant, je pense, son autre BD précédente, chez Sarbacane également. On dirait qu'il y a quelque chose avec l'architecture, lui. C'est toujours hyper important. Et dans La Dernière Rose de l'été, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'ont jamais lu Harari... Je pense que les lieux en eux-mêmes sont des personnages d'une certaine manière, tellement, pour reprendre un peu une phrase qui est dans la BD qu'Edouard nous avait fait lire au dernier club de lecture de Scott McCloud, il y a une conscience du lieu qui est très, très forte dans La Dernière Rose de l'été. Et là où je fais un lien avec le giallo en dehors du décor, c'est le fait que, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore tout à fait compris le récit, mais que je me laisse prendre à chaque fois. Pas encore sûr d'avoir compris sa logique, particulièrement vers la fin, mais on dirait que tout est une question de perception. Est-ce que le personnage a vraiment vu ce qu'il a vu, puis est-ce qu'il croit avoir vu, etc.? Et même le lecteur a-t-il vraiment vu ce qu'il a vu, en tout cas? Et ça, c'est toujours ce qu'on est témoin de quelque chose, c'est pour reprendre le terme consacré aujourd'hui, le mot code. C'est un code du giallo, là, justement, de toujours un étranger qui est témoin de quelque chose, puis à cause de ça, il est amené dans des événements qui le dépassent, finalement. Puis c'est un peu ça, La Dernière Rose de l'été.
Oui, puis en fait, au bout du compte, c'est un jeu. Puis là, sûrement qu'il y a un littéraire qui va me donner une claque en arrière de la tête. Mais dans l'absolu, c'est de la Pulp Fiction américaine versus le roman de gare à l'européenne versus le giallo. On est dans une famille.
Le dialogue prenait son nom d'un roman de gare policier.
Exact. Donc tout est dans tout, mais je te rejoins d'un côté sur l'architecture, parce qu'on prend vraiment le temps justement de nous présenter la maison, de nous présenter la ville, de nous amener un peu dans l'ambiance de ce récit-là.
Le personnage flâne
et le lecteur flâne avec lui. Et en même temps, à travers justement ce flânage-là, je trouve qu'on positionne justement le regard du lecteur et de l'observateur, dans le fond, parce que le narrateur, pendant la première moitié du récit, il est complètement passif par rapport à ce qui se passe. Et éventuellement, il va choisir de prendre action. Et c'est ce qui nous amène beaucoup vers le deuxième acte, dans le fond, du récit. C'est le moment où on passe d'un narrateur passif à un narrateur actif. Le récit s'accélère parce qu'il est impliqué dans ce qui se passe et parce qu'on a une vision qui dépasse justement son observation issue du flânage qu'il va faire.
Absolument. Et tu vois, on parle des décors dans cette BD-là, mais il y a un autre aspect qui m'a marqué dans cette deuxième lecture-là. Cette BD-là, une trame sonore. Il y a deux ou trois planches, il y a de la musique qui joue avec les paroles, et quand on regarde la musique, ça fit toujours avec ce qui se passe. Ça soit Bang Bang de Cher, qui, peu importe la version qu'on met, fit avec ce qui se déroule, Time of the Season, les zombies qui jouent, l'autre pièce, je ne me rappelle pas, mais cette BD-là, c'est donner une trame sonore et ça fit. Vraiment, la pièce joue dans notre tête pendant la planche où ça joue. T'sais.
L'aspect architectural aussi, l'aspect architecture, se reflète aussi dans le découpage de la BD. Qui, prime abord, quand c'est sorti, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai eu des sueurs parce que c'est de la ligne claire. Mais... Et c'est presque ça, puis en même temps, ça ne l'est pas, là, mais c'est au niveau architectural, l'architecture, les lieux, mais le découpage, ce découpage un peu hors norme, ouais, il n'y a pas d'espace blanc, c'est de la ligne noire qui sépare les cases, et ça donne un effet. C'est un peu Loustal aussi. Jacques Loustal, qui nous avait Jacques Barney la note bleue, celui qui a dessiné Barney la note bleue, ça donne un peu ça aussi comme impression.
Mais on se ramasse finalement que notre pulp est un peu indissociable d'une espèce d'ambiance musicale, hein, d'espèce le jazz de l'accenteur, et même dans Red God, me semble que j'entends une trame sonore, là, sombre.
Black metal.
Même pas black metal, quelque chose d'un dark ambient, là, quelque chose de...
Ou du traditionnel ambient, dark, il se fait tout aujourd'hui.
Ah oui, mais même maintenant, c'est ça aussi, ça serait pas très dur de coller une trame sonore à un ou à l'autre. Ce qui m'amène en fait, parce que je parlais de trame sonore et c'est là que j'arrive, j'adore la musique traditionnelle africaine, j'adore dans des films comme The Power of One ou dans des choses comme ça, les rythmes sud-africains, tout ça. Et évidemment pour le contexte du Lion de Juda, où on est essentiellement, parce qu'évidemment moi j'ai lu ça la première fois qui m'a, je voudrais sauter à l'esprit, mais c'est les mines du roi Salomon, hein, les histoires de Alan Quatermain. Encore une fois, on a ce même genre de personnage dans cette Afrique merveilleuse, un peu
mystique,
mythique, surnaturelle. Hein, et ce héros lui-même, justement comme Quatermain, qui donne l'impression d'être un gars qui a tout vu, qui est capable de confronter tout, mais en même temps qui a son passé, qui a ses défauts, qui a son, comme je disais, ce anti-héros pulp qu'on aime bien.
Il est même chassé par sa Aïcha, en tant que telle.
carrément.
Pour faire un lien encore avec Henry Rider Haggard.
Et justement, donc on se retrouve, comme je disais, avec cette Afrique merveilleuse, mystérieuse, qui est peut-être un peu moins maintenant, mais encore une fois, il faut rester dans l'esprit du pulp où c'est l'inconnu, c'est des mondes à découvrir, c'est des mystères qu'on n'a pas percés à jour. On est à la limite du mystique, du surnaturel dans ces cas-là. Tout ça pour dire que moi, écoutez, je suis tombé dans le Lion de Juda, mais tu sais, d'un bout à l'autre, J'aime le mythe, bon, du grand chasseur blanc, ces trucs-là, encore une fois, ici, on l'expurge, hein, de son époque, à savoir, bon, oui, c'était bien beau, le grand chasseur blanc, mais l'idée de maintenant partir avec un seul fusil pour tuer tout ce qui existe comme animaux sur la planète, c'est peut-être moins à la mode que ça l'a été à une certaine époque. Mais non, on garde cette essence-là, c'est-à-dire le gars un peu, justement, un peu shady, un peu avec un passé un peu discutable, mal rasé et tout, donc c'est encore une fois, je tombe dans les mêmes comme images, je dirais peut-être un peu grossières quand je décrivais le détective, mais pour moi c'est ça le Paul.
Like, okay.
Quelques grands archétypes, quelques grands points comme ça, et si je les retrouve pas, bah t'as bien beau essayer de me vendre une histoire en me disant qu'elle est Paul, pour moi il y a quelque chose dans la recette qui colle pas là.
Le lion de Juda d'ailleurs, je trouve dans ton choix de lecture est... C'est l'aventure pure, là. Tu t'essaies même pas de faire dire autre chose que ce qu'elle te montre, d'une certaine manière. Le personnage passe à travers l'Afrique qui est dans le coin de l'Éthiopie, Soudan-Éthiopie, je sais plus trop. Puis, c'est dessiné, là, il t'a une ambiance de fou au niveau du dessin. L'Afrique est magnifique, autant qu'elle peut être sale. Puis, le personnage passe son aventure... on va voir poindre le colonialisme, mais c'est pas ça qui est au cœur du récit. C'est son aventure. Lui, il passe à travers ça. Il a un but. Puis, bon, là, tu nous as fait lire le livre 1. Je ne sais pas. Tu disais qu'il y a 6 tomes, là, d'après ce que tu me disais. 3 tomes. OK, excuse-moi. 3 tomes. Puis, on sent poindre un peu de fantastique potentiellement. Là. Il y a de quoi que ce personnage-là semble avoir vécu. On a lu juste le premier tome. Pour l'instant, c'est de l'aventure pure, comme Edouard le disait, qui évoque effectivement Henry Rider Haggard, Alan Quatermain, puis She. Là,
En fait, c'est une réussite dans le sens que l'aventure, le récit d'aventure pulp ou pur a toujours été une espèce d'enfant pauvre, c'est-à-dire on pense jamais à lui quand on fait... Tu sais, on pense au western, ben OK, on pense au roman noir, au fantastique, ou... Mais dans ce cas-ci, c'est une réussite parce que moi, au premier abord, le look, moi, c'est Atari de Howard Hawks avec Clark Gable. Mm-hmm. Ça se passe en Afrique, un aventurier mal aimé, mal rasé. Souvent, les deux vont ensemble. ce qui fait que c'est tout à fait ça. Là. Bon, qu'il y ait un peu de fantastique, oui, mais... C'est l'aventure pure, là. Ce guide, ce personnage va amener des gens avec lui, puis c'est comme une quête. Et la deuxième chose, l'esprit de cet album-là, moi, me rappeler les comic strips, ces histoires racontées quotidiennement dans les journaux par des grands auteurs, surtout adaptés des auteurs
de feuilleton.
Ouais, feuilleton, voilà. Surtout à la façon feuilleton, et je pense que c'est très riche. Même si c'est un album, même s'il va avoir 3 parties, je parle de l'esprit de la chose. Là, moi, ça me fait beaucoup rappeler ça. Et ça a comme... Tu sais, ça a comme solidifié le truc. Oui, tu sais, c'est comme le prendre dans nos bras et dire « Oui, tu fais partie de cet univers pulp. » Tu lui fais un câlin et tu le remets sur la table.
Oui, puis en fait, je sais pas qu'Edouard m'a comme allumé une flamèche là, quand tu mentionnais Quatermain, puis ces types d'icônes-là, parce que pour moi, il y a comme un aspect aussi, je veux dire, les personnages, on les développe, évidemment, il y a quand même des dimensions qui sont poussées, mais c'est d'abord et avant tout, je veux dire, des impressions, je veux dire, c'est des présences, puis autant les prisonniers, autant le héros, autant l'Aïcha dont on parlait tantôt, je veux dire, c'est des présences et la manière par laquelle on met la chose en page accentue aussi ces éléments-là. Aïcha, par exemple, la première fois qu'elle apparaît, je veux dire, on sent qu'elle est importante, on sent qu'elle est différente et on réussit à rendre le dessin charismatique. Et ça, je trouve que si le dessin n'était pas charismatique, les éléments qui nous amènent là-dedans ne marcheraient pas autant parce que là, on sent qu'il y a une gravité dans les personnages, on sent qu'il y a une dimension dans les personnages. On comprend peut-être l'attraction ou l'intérêt aussi que ces personnages-là vont représenter. Pourquoi rapidement, je veux dire, le type, il arrive en prison, puis après une demi-journée, c'est le centre de la prison, mais en même temps, il y a un magnétisme qui ressort de ce personnage-là et on comprend pourquoi, dans le fond, on le place de facto dans cette position-là? Parce qu'on réussit à le rendre, à le transcender à travers la planche. C'est ça, pour moi, d'un point de vue visuel, c'est extrêmement réussi. C'est quelque chose de précieux qui vient enrichir, justement, cet album-là et le rendre possible, au bout du compte.
En fait, c'est même devenu, pour moi, un rêve inaccessible, probablement. Mais Hugues Labiano, le dessinateur, le concepteur, après avoir lu cet album-là, je me suis dit, faudrait qu'il adapte Les Neiges du Kilimanjaro de Hemingway en BD. Putain, il a saisi tout ce qui était cette atmosphère-là, l'Afrique, mais aussi l'atmosphère qu'il y a là, puis la savane, les animaux, le danger et tout, là, waouh!
C'est magnifique. Les couleurs, l'ambiance, l'esprit, les personnages, je veux dire, visuellement, cette BD-là fonctionne à fond.
J'avais pas retrouvé ça, moi, j'avoue, depuis Katanga, que j'avais adoré également, qui se trouvait en Afrique, bon, qui est beaucoup... On est beaucoup moins dans le pop, on est beaucoup plus dans le politique et dans le train contemporain qui avait été signé par, évidemment, Nuri, Dieu sait que j'adore, mais qui nous avait campé une Afrique, encore une fois, vraiment magnifique, mais le fait est que ici, le travail de Desberg et Labiano, comme je disais, moi, c'est pas pour rien que je suis tombé en amour avec ce titre-là. Je radote encore, mais pour moi, ça sointe le Paul. Je veux dire, il y a encore une fois, c'est ces éléments, c'est ces archétypes, c'est ce type mal rasé qu'on aime plus ou moins.
Mais pour ce qui est de Stéphane Desberg, le scénariste, moi, ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un, c'est quand même un jeune auteur, même s'il travaille depuis longtemps en BD, mais il a commencé chez Spirou. Dans le magazine Spirou, à faire de la BD comme Billy the Cat, des trucs comme ça, tout gentil, mais vous imaginez les scénaristes qu'il a côtoyés, là. Mm-hmm. Tu sais, les scénaristes comme Covin, comme... puis avec tous ces gens-là qui ont défini qu'est-ce que c'était le récit d'aventure, le western, le fantastique, même si c'était Spirou, quand même, ils ont quand même réussi à créer une pochette, une ribambelle d'auteurs qui maîtrisaient à peu près tous les genres. Là. Alors, Desberg vient de là, moi, ça ne m'étonne pas. Là.
Mais c'est ce qu'on disait du Paul. Comme je disais, je reviens là-dessus. Je ne veux pas qu'on voit ça, justement, comme un genre facile ou un sous-genre. Ce n'est pas parce que c'est du divertissement que c'est... Non, c'est au contraire, ça répond à ses codes, ça répond à un besoin... Je veux dire, de divertissement très clair, mais tout ça dans un cadre. Et ce cadre-là, on l'a retrouvé dans les quatre. Et non seulement. Et ça donne pas, au contraire, un côté brouillon au pop. Ça montre que c'est quelque chose qui couvre justement plusieurs thèmes. Tout est dans l'essence, tout est dans l'ambiance, en fait. C'est ça le pop, c'est l'ambiance.
C'est l'ambiance, c'est une ambiance, comme tu disais, qui est très bien maîtrisée parce que bien faire quelque chose, c'est pas non plus facile. On s'entend, c'est pas parce qu'il y a un code qui est clair que c'est facile de bien se l'approprier non plus.
Loin de là.
Et je rappelle les quatre titres qu'on a lus aujourd'hui. J'y vais un peu en ordre inverse. Alors, on vient de parler du Lion de Judas de Stéphane Desberg et Hugues Labiano, c'est chez Dargo. On a parlé juste avant de La dernière rose de l'été de Luca Harari chez Sarbacane. On vous a amené vers Alak Sinar, L'âge de l'innocence de Munoz et Sampaio, c'est chez Casterman. Et on avait commencé avec Rat God de Richard Corben chez Delirium. Alors, tout ça autour de la thématique de la Pulp Fiction et du roman de gare, qui était une sélection de Jérôme. Le mois prochain, on se retrouvera pour un autre club de lecture autour de la thématique de la famille. On verra ce qui en ressortira. Évidemment, je vous incite à suivre l'émission sur Facebook ou sur Instagram pour en savoir plus. Et je présente les collègues, évidemment, qui étaient avec nous pour cette heure. Alors, Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Fermette, un grand merci à vous trois. Marco, évidemment, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une carte blanche. Et d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine.